Bruno Beuglin, votre spectacle s'appelle Brautigane et c'est davantage une traversée de l'œuvre de Richard Brautigane qu'une adaptation de l'une ou de l'un ou l'autre texte. Pouvez-vous me dire comment vous avez travaillé, comment vous avez prélevé les fragments, qu'est-ce qui vous a guidé dans votre travail ?
Ben d'abord, moi j'ai découvert l'auteur Richard Brautigane en 1995 au Nicaragua, parce que mon assistant avait un de ses livres, Le privé à Babylone, dans ses bagages. Et j'ai trouvé le roman fabuleux. Donc de retour en France, j'ai fait une demande pour obtenir les droits pour en faire une adaptation théâtrale. Et malheureusement, New York a répondu, enfin l'agent de New York a répondu que c'était pas possible, que les droits étaient bloqués. À la suite de quoi il ne s'est rien passé, donc, et puis, comme il arrive toujours dans le... on s'est demandé ce qu'on allait faire la prochaine fois, qu'est-ce qu'on allait monter, et on a repensé à Brautigane, et on s'est dit que si on n'avait pas les droits pour un privé à Babylone, on allait s'y prendre autrement, on allait dire qu'on allait faire une sorte de portrait, enfin de l'écrivain Richard Brautigane, de portrait de l'homme et de son œuvre. Et en gros, c'est de ça dont il s'agit, puisque le spectacle s'ouvre sur un des livres qu'il a écrit, c'est l'avortement, avec le bibliothécaire, et puis après on retombe, on voit Brautigane sur un écran en train d'écrire, et puis après on traverse son œuvre effectivement à travers différents de ses romans, Un privé à Babylone, Les trophées de bowling, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, il y en a pas mal.
La pêche à la truite.
La pêche à, c'est le roman qu'il a fait connaître, au début des années 70, La pêche à la truite en Amérique, Mémoire sauvée du vent, enfin il y en a comme ça, pas mal quoi.
Et qu'est-ce qui vous a tellement plu, par exemple dans Un privé à Babylone, qu'est-ce qui vous...
C'est toujours une question difficile de dire qu'est-ce qui nous a plu et pourquoi on l'a fait. Enfin, c'est la même question. Pourquoi
Non, parce qu'il n'est pas très connu en France. Enfin, il est connu.
Il l'a été au début des années 70 quand il a eu son grand moment de gloire et qu'il a été même traduit par 19, dans 19 langues, dont l'hébreu, dit-il. Et puis ça s'est arrêté, mais ça s'est arrêté aux États-Unis exactement comme ça s'est arrêté dans les autres pays. Et ça, par exemple, lui, l'auteur, ne l'a pas supporté. Et c'est pour ça, entre autres aussi, vraisemblablement pour ça, qu'en 84, il s'est donné la mort. Moi, pourquoi ça m'a plu, je sais pas, j'ai eu la même impression en lisant son œuvre, alors que ça ne ressemble pas du tout à l'écrivain dont je vais parler. Je me souvenais de ce qu'on avait fait à la fin des années 70 avec Bernard-Marie Coltès, le travail qu'on avait fait sur Jérôme David Salinger, qui est un autre auteur américain qui lui aussi a eu son heure de gloire avec Franny et Zoé, enfin plusieurs livres. On avait travaillé sur l'ensemble de l'œuvre de Salinger. Et on avait demandé à Bernard de regarder les impros, finalement on lui avait passé commande d'une pièce et à ce moment-là il avait écrit le Salinger, mais à l'époque le titre n'avait qu'un L. À l'édition maintenant il en a deux pour des raisons un peu idiotes je crois, mais à l'époque c'était Salinger. Ça m'a fait un peu la même impression. Maintenant dire exactement quelle impression, pourquoi on aime, j'en suis absolument incapable. C'est comme dans la vie, pourquoi on aime quelqu'un, on a beau se dire parce que la personne est jolie, intelligente, etc., mais ça dépasse ça. Ou alors il y aurait 10 000 raisons et ce serait fastidieux de les donner. Mais enfin, moi j'ai adoré du début à la fin, et même je découvre encore des livres que je ne connaissais pas, dont un qui s'appelle... Pourquoi un auteur inconnu demeure inconnue. Le titre est à peu près ça. C'est une série de petits poèmes qu'il avait écrits quand il avait 21 ans, qu'il habitait encore sa ville natale, Eugene, aux États-Unis. Et il avait donné ses poèmes à la mère de son ami en lui disant « Ce sera ta sécurité sociale pour plus tard ». Donc c'est les dernières choses que j'ai pu lire de cet auteur de Protigan. Mm. Mais certainement, il a encore des trucs qui vont peut-être arriver, qu'on ne sait pas.
Des fonds de tiroir.
Voilà. J'ai même lu, enfin on a lu, Dominique, mon assistant, a traduit le livre sur son père qu'a écrit sa fille, Yante Protigan. Ouais. Et qui, 20 ans après, a écrit un livre sur son père en essayant en parlant de son suicide, en parlant des liens qu'elle avait avec son père. Et c'est un livre fabuleux aussi. On a essayé de la rencontrer, cette personne, mais on l'a eu quelques fois au téléphone, et quand on est allé dans le Montana, on n'a pas pu, elle ne voulait plus, enfin c'était compliqué.
Ouais.
Mais je ne réponds pas à la question.
Non, mais je vous pose aussi cette question parce qu'il y a un mythe Brotigan d'auteur un peu sulfureux, complètement alcoolique, suicidé, etc.
Si vous voulez, il fait partie, enfin, nous on l'a su quand on est allé dans cette énorme université de Missoula dans le Montana, fait partie de ce qu'on appelle les gars du Montana. Donc vont partie, il y a Jim Harrison, il y a Crumley, il y a Rick Bass, enfin il y en a comme ça une collection, et il y a Protigan. Mais curieusement, enfin, que ce soit à San Francisco ou dans la ville même de Missoula, pas dans l'enclave universitaire, plus personne ne le connaît. Dans sa ville natale, il n'y a pas un livre, il n'y a pas un libraire qui vendrait du Protigan. C'est assez curieux, cette espèce de moment de gloire, mais de gloire, enfin, du jour au lendemain, cette personne jeune, qui était pauvre, qui écrivait, qui avait ce côté un peu hippiste à l'époque des hippies, s'est retrouvée propulsée sur la scène, au devant de la scène, et il s'est fait une fortune incroyable, et puis du jour au lendemain, patatrac, tout s'est arrêté. Voilà.
Il y a quelque chose de que je trouve, qui pour moi est se rejoint entre l'œuvre, de nombreux textes de Brotigan et votre travail, c'est cette forme comme ça très, ce geste très bref, très fragmentaire, avec lesquels vous avez travaillé votre mise en scène, et qui rejoindrait peut-être un peu la forme du haïku qui fascinait Brotigan.
Ça ne rejoint pas peut-être. Il y a certains de ses poèmes, c'est des haïkus. Carrément.
Oui. Mais est-ce que vous avez travaillé avec cette forme pour en tête, pour cadre ou...
Un peu cette forme-là. Et surtout ce qu'on retrouve beaucoup dans Retombée de Sombrero, par exemple, ou Un privé à Babylone, c'est l'art de vivre. C'est-à-dire que Brotigan est un auteur qui est en train de vous raconter une histoire. Subitement, il s'arrête de raconter cette histoire pour en raconter une autre. Après, pour revenir ou pas à la première histoire, et c'est cette espèce de structure enfin narrative, moi, qui m'a beaucoup plu et que j'ai essayé de transmettre au théâtre.
Ouais. Quoi.
Parce qu'au théâtre, il y a des scènes qu'on voit, on se demande qu'est-ce que ça vient faire là, par exemple le thé chez Miss O'Klein, oui, pourquoi pas. On se dit oui, pourquoi pas, mais... on est intéressé parce que c'est plutôt drôle, mais si on y réfléchit vraiment, on n'a pas de réponse. On peut pas se dire pourquoi il a foutu ces trois personnes qui boivent le thé ensemble. Et ça, c'est un peu une constante dans ses écrits, hein. Oui. Pas dans tous, mais oui, dans beaucoup. C'est-à-dire qu'il aime bien. Enfin, je crois que c'est lui qui dit que. Il dit quelque chose, je vais le défigurer, ça m'ennuie. Il dit que le destin, c'est pas une ligne droite comme ça, que le destin, c'est souvent. C'est des petites lignes qui partent à droite et à gauche.
Les digressions.
Les digressions, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le véritable destin. Autrement dit, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'une ligne droite, ça se maîtrise.
Et puis cette façon de parler de passer par des petites choses, par des histoires de cuisine, par exemple, de je sais plus, c'est plus où il parle de mayonnaise.
Mais je vais faire un rapprochement complètement fou. Mais enfin, ça fait rien, je me lance. À des moments, il fait penser à Gombrowicz.
Ouais.
Dans l'art de décrire des détails, par exemple. Je sais pas, je me souviens dans Perdigurk ou dans un autre livre de Gombrowicz, il décrivait une petite fêlure de peinture sur le plafond,
ouais,
et en disant que ça commençait à ça ressembler à telle chose. Alors il y a des analogies entre ces deux écrivains aussi. Ça me fait penser à ça, quoi.
Et par rapport à d'autres écrivains que vous avez montés, est-ce qu'il y a une...
Non.
Il n'y a pas d'aboutissement
Non. Moi, je suis iconoclaste depuis 30 ans. C'est-à-dire que si on va chercher une vague, qu'est-ce qui pourrait réunir tous les spectacles, est-ce que quelque chose réunirait tous les spectacles que j'ai montés, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou alors peut-être, mais c'est malgré moi et je ne le sais pas.
Ou alors c'est dans le geste aussi, peut-être justement, qui est
Peut-être, c'est peut-être alors dans la façon de montrer certaines choses sur un plateau de théâtre, là oui. Un univers, certainement, mais je serais incapable de mettre un adjectif à côté du mot univers. Ça oui, mais ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick, si je
Et dans le rapport aux acteurs, est-ce qu'il y a, il y a peut-être des choses qui...
Rapport aux acteurs, moi j'ai beaucoup bougé depuis 30 ans.
Ouais.
Pour être tout à fait franc, tout à fait au début, j'étais vraiment un piètre metteur en scène. J'écrivais mes mises en scène, j'avais dans l'oreille, avant même de répéter, j'avais le ton avec lequel le personnage devait s'exprimer, c'est-à-dire c'était absolument odieux de travailler avec moi, parce que c'était pas possible, tout simplement, pour un acteur, il pouvait pas... Et puis, de fil en aiguille, je crois que j'ai beaucoup changé, que quand j'arrive au premier jour des répétitions, j'y arrive toujours avec une sorte d'angoisse terrible, mais je n'ai absolument rien préparé. J'ai toujours l'impression de me lancer comme ça pour la première fois. Et pour aller où, on le sait qu'au jour des trois derniers jours avant qui précède la première, enfin, une vague idée de où on va. Mais au départ, je ne sais pas du tout. Au départ, je ne sais pas.
Là, vous ne saviez pas du tout?
Non. Là, on a fait un gros... tous les deux, avec Dominique, mon assistant, on a fait un grand travail... d'adaptation, parce que c'était pas 21 romans plus des livres de poésie, c'est pas évident.
Oui, parce qu'à chaque fois vous avez vraiment prélevé des petits éclats.
Oui, il y a par exemple dans certaines scènes des bouts de phrases d'autres romans, Dieu reconnaîtra les siens. C'était assez dur en plus parce qu'on était tombés tous les deux amoureux fous de cet auteur. Et qui nous semblait qu'on le trahissait constamment en ne prenant pas cette phrase-là, cette scène-là, ceci, cela. Bon, finalement, on ne s'est pas disputé et on est arrivé à une sorte de résultat. Mais on aurait pu en faire un autre, ça aurait pu être un autre spectacle qui serait appelé de la même façon Protigane, quoi.
C'est un aperçu, en fait. C'est un portrait, mais un, un,
Oui, oui, on pourrait faire 10 ou 20 spectacles, on pourrait le décliner, en tout cas. On le fera pas, je pense, mais on pourrait en faire un autre assez facilement.
Et avec les acteurs, alors comment... Non, parce que j'en reviens aux acteurs, parce que vous avez une distribution assez étonnante quand même sur scène. Enfin, je veux dire, ils sont... chacun est assez formidable,
ouais, c'est
et
parti,
le trio est formidable.
C'est vrai, enfin, bon, je le pense. mais c'est parti malheureusement d'une chose qui, elle, n'est pas intéressante du tout, c'est-à-dire la raison économique. Si on avait eu autant d'argent qu'on en aurait souhaité, il n'aurait pas été si peu nombreux sur le plateau. Il y a de fortes chances pour qu'il...
D'où ces voix off ?
D'où les voix off, puis ce chiffre 3 qui me convient parfaitement, c'était 1, 3, 5, 7, enfin des chiffres impairs, les voix off, et puis il me semblait intéressant également les nationalités différentes, quoi. En tout cas, certainement, l'auteur lui-même, Richard, un Américain mais pas un Anglais, on a trouvé, et on a eu beaucoup de chance, Joe Resvin.
Et alors c'est qui ?
Eh bien, c'est quelqu'un qui vit en France depuis une dizaine d'années, qui est cinéaste, qui a joué, qui était très très proche de la bande à Los Angeles, de Cazavetes, de gens,
ça.
Il fallait également une japonaise et l'évocation du Japon, parce que Portigal, c'était une partie de lui-même sur la fin de sa vie.
Sa femme était japonaise, c'est ça ?
Pas la première, hein, une de ses dernières,
ouais.
Avec laquelle je ne sais pas s'ils étaient mariés ou quoi, mais enfin, il a quand même passé sur la fin de sa vie une année entière dans un hôtel à Tokyo. Donc il était tombé amoureux fou de ce pays et de ses habitants. Et
de sa littérature, enfin de cette forme.
Et puis alors le dernier...
Donc cette actrice, vous la connaissiez ?
Non, on a rencontré plusieurs actrices japonaises et puis on est tombé sur elle, quoi. Le reste c'est intuitif,
on a pu se tromper, alors décevoir, c'est pas
le cas, au contraire, elle est ravissante. Et puis le dernier, il fallait quand même une troisième personne si on voulait un peu monter ses romans. Hein.
Ouais.
On avait déjà travaillé avec Lan Tru Long, le Vietnamien, pour Pinocchio.
Ouais.
Et moi je me suis dit, il faut le reprendre parce qu'il a un côté, comment dirais-je, très mystérieux, enfin, qui me touche. Et qui est très, très proche de certains, dans un privé à Babylone, il est proche de certains personnages dans un privé.
Ouais.
Donc ils ont fait une sorte comme ça, ils forment comme ça une sorte de trio international.
Mais ils se sont bien trouvés, non ? Enfin, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui circule.
Bah, c'était pendant les répétitions et même encore maintenant pendant les représentations, ce qui est très curieux, un choc, mais un choc positif de culture. Hiromi Asahi, la japonaise, par exemple, est véritablement une japonaise. On le sent dans la façon dont elle travaille, dans la façon dont elle rit à certaines plaisanteries ou pas. Joe, c'est pareil. C'est une sorte de personne très méticuleuse, très... Ils sont tous les trois très différents et ils apportent, je crois, beaucoup grâce à la culture qu'ils ont derrière eux, quoi.
Est-ce que les accents, la manière dont ils articulent, je pense notamment à l'acteur vietnamien, est-ce que ça a une importance pour vous, une importance consciente, je veux dire
Alors, voilà, moi, pour Lan, puisqu'on parle de lui, son accent ou la façon qu'il a un peu particulière, enfin très particulière de parler français, ne me dérange pas du tout.
Oui, mais...
Je sais que ça dérange certains spectateurs parce qu'il n'est pas toujours audible, complètement audible, mais je pense que si on fait un peu un effort d'attention et un effort pour l'écouter totalement, on comprend, même s'il y a des mots qui sautent, qu'on ne comprend pas, même s'il y a des mots qui sautent, je pense qu'on le comprend finalement. Donc moi, c'est... Et puis je trouve à hurler de rire sa façon qu'il a, la façon qu'il a de s'exprimer, quoi, qui est totalement...
Mais on a l'impression qu'il empoigne la langue
voilà,
à bras et corps. Enfin, qui...
Absolument, absolument. Il est d'une énergie.
Ouais, ouais.
C'est un comédien, j'ai rarement vu quelqu'un avec une énergie aussi belle et aussi dense que l'âne truand. C'est un grand comédien. À sa décharge, alors, oui, cette façon de s'exprimer.
Oui, mais qui peut être au contraire, qui peut apporter.
Ah, bah oui, mais c'est pas partagé.
Ah, ouais, ah ouais.
Non.
Et. Et comment vous avez travaillé avec eux? Alors, comment.
Le plus simplement du monde, comme je le disais un petit peu avant. On a commencé à travailler dans le bureau que le Nouveau Théâtre a à Lyon, comme salle de répétition, comme lieu de répétition. Et puis, après deux ou trois lectures, toutes bêtes, toutes simples, où on a un peu, chacun a dit un peu qu'est-ce qui lui semblait de cet assemblage. On a essayé, nous, Dominique et moi, de leur expliquer un petit peu quel était le projet. Il a bien fallu commencer. Et ça s'est fait tout naturellement, du passage assis à la lecture, on est passé debout et ils ont commencé, le bibliothécaire a dit rentrer à cette personne qui venait déposer un livre, c'est le début du spectacle, un manuscrit, entrer, ouais. Il remit, s'est levé et on a commencé à répéter vraiment comme ça, du début à la fin. Bon, à la fin, il y a eu quand même une quinzaine de jours où il a fallu, comme on dit, faire le spectacle, enfin, avec les éclairages, le son, faire le spectacle, mais autrement, ça s'est passé avec cette simplicité-là.
Mais c'est ça, parce qu'il circule vraiment dans ce travail de façon très...
Mais moi, j'ai remarqué, dans d'autres spectacles, c'est différent, mais j'ai remarqué que... ce que j'essayais de faire, ça m'est apparu assez vite, c'était qu'il fallait ne rien faire qui n'avait pas de raison. Il fallait quelqu'un sort, il fallait laisser sortir, quelqu'un entre, il rentrait. Je ne devais pas brouiller les choses avec des déplacements inutiles ou essayer de faire... un double jeu.
Vous avez marché à l'économie presque.
Ah mais totalement. Ouais. Donc, je dis pas que ça a été simple parce que c'est pas simple de marcher à l'économie. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Quoi.
C'est en ce sens-là aussi que je vous parlais de haïku tout à l'heure.
Ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. La séance du thé qui se révèle être assez drôle. Elle s'est trouvée comme ça, elle s'est trouvée, on a un plateau, on a trois tasses, on a du sucre, on a une petite cuillère et on a une théière. Et puis, ça commence. Et puis on commence à rire, on se dit, et toutes les scènes se sont trouvées comme ça. D'ailleurs, on l'a vérifié. Plus moi j'essayais, enfin quelquefois, de faire, entre guillemets, de la mise en scène, moins c'était bon. Ça marchait pas. Voilà, quelle a été un peu la façon dont on a monté ce spectacle.
Et c'est une découverte qui vaudrait pour votre
pas.
Travail en général et à l'avenir ou...
Je sais pas, j'ai l'impression au fil des ans que... j'apprends sur chaque spectacle des choses. Ça a été très vrai, par exemple, les années où j'ai travaillé au Nicaragua avec les Indiens Miskito et les Nicaraguayens, ils m'ont appris beaucoup de choses. Moi, je découvre, je ne suis pas du tout, je n'ai aucune théorie, aucun principe théâtral, je n'ai pas de méthode, entre guillemets et avec un grand M. M majuscule, À chaque fois, j'ai l'impression de recommencer et de partir de rien. Mais vraiment, c'est pas une... Donc ça comporte quand même énormément au début d'angoisse, enfin de peur. On se dit, à chaque fois on se dit, bon enfin tu t'en es tiré la dernière fois, est-ce que là, comment tu vas faire, comme si je l'avais jamais fait, quoi.
Mais ça c'est inévitable, non? Le jour où il n'y a plus ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de...
Ah, je crois que pour je vais être méchant vis-à-vis de mes camarades qui sont metteurs en scène, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question, hein, qui refont un peu toujours les mêmes choses, bien ou pas bien, le problème n'est pas là, mais qui ont une façon unique de travailler. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce que à chaque fois, je trouve, on travaille sur une œuvre qui est totalement différente de la précédente, et avec des gens pour la faire vivre qui sont totalement différents des précédents. Donc on ne peut pas aborder la mise en scène, ou en tout cas le travail pour faire le spectacle, de la même façon. Pour moi c'est une évidence, c'est la seule.
Est-ce que cette peur, c'est pas l'envers du désir, enfin, ou le... Est-ce que ça serait pas la même chose que le désir?
Je sais pas du tout. Je sais, parce que je suis également comédien, que plus ça va, plus j'ai une peur de jouer, mais qui devient à la longue pathologique, tellement elle augmente. Et la peur de la mise en scène aussi. Mon père me dit en blaguant, tu l'as voulu, tu l'as eu. Bon, c'est vrai, personne ne m'oblige aujourd'hui à faire du théâtre, vraiment personne.
Et surtout pas lui. Il vous
non.
a pas.
Non, il m'a pas. Non.
C'est pas lui qui vous a mis sur ce chemin-là.
Non,
un peu quand
fait.
Même. Non, bah oui,
non,
je sais
mais
bien.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est. Moi, je peux raconter mon début. Il est absolument inintéressant.
Depuis le début, vous me dites que c'est inintéressant.
Mais parce que ça l'est. C'est complètement anecdotique. Alors, c'est intéressant si on aime les anecdotes. On ne peut pas en tirer de leçons ou quoi que ce soit. On habitait le 7e arrondissement de Lyon, dans le quartier qui s'appelle Gerland, qui est un quartier d'émigrés. Et il y avait une maison des jeunes, et ma sœur faisait du judo. Et un jour, elle me dit, tu devrais venir, parce qu'il y a le directeur de la maison des jeunes qui est écrivain, qui écrit des pièces de théâtre, et il voudrait fonder un petit groupe de théâtre au sein de la maison des jeunes. J'y suis allé, et ça a commencé comme ça.
Et c'était quand, ça?
Et c'était en 1967.
D'accord, et donc votre père avait déjà fait beaucoup de choses.
Il avait travaillé
en Algérie.
En Algérie, et puis il avait travaillé avec Planchon à l'époque du petit théâtre des Marronniers et du début du théâtre de la Cité.
D'accord.
Mais c'est pas du tout à cause de lui que je me suis retrouvé embringué à faire du théâtre.
Ouais.
Puis j'ai eu de la chance, par exemple. Je dis en matière de plaisanterie, mais c'est. C'est même pas de la plaisanterie, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai loupé mon bachot.
Ouais.
Bon. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais eu mon bac? Vraisemblablement, je me serais retrouvé à l'université. Et nul ne peut dire ce qui me serait arrivé après. D'une certaine façon, je suis très content d'avoir loupé mon bac. Ça m'a permis de faire du théâtre. Mais c'est curieux. C'est une question... Ça n'a pas été réfléchi, si vous voulez, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été une vocation, comme on dit, il a toujours eu la vocation de, depuis qu'il était haut comme trois pommes, il disait qu'il allait être un comédien ou un acteur, moi pas du tout, le début c'était un simple divertissement de mercredi, enfin j'ai n'importe quoi, c'était ça. On s'est très vite détaché d'ailleurs de la personne du directeur qui était lui-même. C'est là que j'ai compris pourquoi il voulait fonder un groupe de théâtre. C'était que lui-même était écrivain et qui voulait qu'on monte ses pièces,
ouais.
Quoi, qui étaient d'ailleurs de qualité moyenne.
Finalement assez moyenne.
Oui. Et puis, anecdote aussi, ce directeur de maison des jeunes est parti dans le sud de la France, à Martigues, exactement parce que ses enfants ne supportaient pas le climat lyonnais. On a fait de la création collective pendant un an ou deux, et très vite on s'est aperçu que ça bloquait, que ça ne marchait pas, qu'il y avait entre nous des différences qui faisaient que c'était bien à l'époque de la création collective, tout le monde est metteur en scène, tout le monde est comédien, tout le monde fait tout, etc.
Là c'est quoi, c'est années 70?
Voilà, à peu près, 70-71. Et alors là, je vous jure que c'est vrai, j'ai été élu metteur en scène. Parce qu'on était une quinzaine, et on s'est dit, il faut faire des élections, qui va être décorateur, qui va être aux lumières, qui va être comédien, qui va être metteur en scène. J'ai été élu à une voix près.
Ça aussi, c'est bien l'époque,
c'est la mienne. C'est ma voix, parce que bien évidemment, j'avais voté pour moi. C'est-à-dire que si je n'avais pas voté pour moi, ça c'est horrible. On aurait été en ballotage, je sais avec qui. Donc j'ai véritablement été élu démocratiquement metteur en scène. Tout le monde ne veut pas en dire autant.
Mais est-ce que la mise en scène, ça se décrète comme ça sur vote démocratique?
Bien sûr que non, mais on était gamins, on avait 18 ans. On était une bande. C'était pas du tout, ça ne ressemblait, le travail qu'on faisait à l'époque ne ressemblait pas du tout au travail qu'on fait maintenant que c'est devenu un métier. Et moi, je garde beaucoup de bons souvenirs de cette époque-là. Je me demande même si je n'étais pas plus heureux à l'époque que maintenant que c'est devenu un commerce, quoi.
Mais pour vous aussi, c'est devenu un commerce?
Mais pas pour moi, mais je veux dire, c'est un commerce. On est dans une société qui de plus en plus va être une société de loisirs, puisque les gens vont travailler de moins en moins. Ça, les situationnistes le disaient déjà à l'époque. Et donc le théâtre va remplir son rôle, comme le cinéma, les voyages au loin pour le troisième âge. Enfin, il faut bien...
Mais un rôle qui serait plutôt de divertissement. Alors.
Oui, je crois, oui. Ouais. Oui. Donc on va résister, on résiste déjà, mais on voit déjà que dans les institutions, ou dans les centres dramatiques, les théâtres nationaux, en personnel, en nombre de salariés, les administrateurs ou les communicants ou les sont en nombre supérieur par rapport aux créateurs, aux comédiens, à l'artistique. Donc, il n'y a pas de raison que ça change, aucune raison que ça change. Et c'est abominable, cet état de fait. Parce qu'avant, c'était pas ça, les débuts de plongeon, c'était pas ça. Oui, il y avait un bout de comptable, un bout d'administrateur, parce qu'il avait suivi une école de comptabilité. Mais tout le monde jouait, tout le monde mettait la main à la pâte, comme la compagnie que je dirigeais, pour construire les décors, réaliser les costumes. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Enfin, le début de la décentralisation... ne ressemblait pas du tout à aujourd'hui, aux choses d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'en même temps, il n'y a jamais eu autant de centres dramatiques, de maisons de la culture. Il y a une généralisation de la culture qui fait que...
Moi, je préfère ne pas répondre parce que j'aurais des mots très durs, trop durs.
Et alors, dites-moi plutôt comment vous vous en tirez dans ce paysage-là. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes que vos créations... sont décalés, que vous n'êtes plus entendus, ou vous avez dans votre résistance vous...
Ah mais moi je suis persuadé d'une chose, c'est que mon parcours, il est complètement atypique. Je vais citer simplement un exemple, c'est que c'était en 86, quelque chose comme ça, j'ai pris la direction du Centre Dramatique National des Alpes à la suite de Georges Lavaudan. Ça n'a pas du tout marché. J'ai été renvoyé par pétition au bout de 6 mois. On a pétitionné pour me mettre à la porte. Parce que je voulais changer l'outil, en faire un outil pour faire mon théâtre à moi. Et les gens qui étaient à l'intérieur voulaient continuer de faire du Lavaudan. Donc ça ne pouvait pas coller. Et je n'ai jamais monté beaucoup de classiques. Je me suis absenté souvent en Amérique centrale pour faire du théâtre là-bas. J'ai pas le parcours type. Et je veux pas. Je veux pas. Aujourd'hui, on me donnerait une maison, je réfléchirais bougrement avant de dire oui. Hein. Voilà. Donc je ne peux pas rentrer plus dans le détail, parce qu'à ce moment-là, je deviendrais méchant.
Mais vous pouvez, vous pouvez devenir méchant. Non, mais il y a une...
Non, j'ai pas envie.
Vous avez un parcours atypique qui est un peu marginal, on peut dire marginal.
Je crois qu'on peut le dire, oui.
Et c'est, ben, c'est oui, choisi, on... c'est revendiqué.
Pas complètement, ça tiendra ce que ça tiendra. Pas complètement, parce que le montant de subvention, par exemple, si on parle argent, le montant de subvention que je reçois n'est pas négligeable de la part de l'État, de la ville de Lyon également. Mais il nous met dans une drôle de situation, il met le nouveau théâtre dans une drôle de situation, c'est que on n'a pas suffisamment d'argent pour monter un spectacle tout seul, ou alors prodigane. Ou alors il y a trois auteurs, enfin trois acteurs et un décor qui est trois bouts de chandelle, quoi. Donc on est toujours obligé de travailler en coproduction. Et moi je veux dire que j'en ai un peu marre depuis 30 ans d'aller mendier de l'argent pour monter des spectacles. Ou pour vendre des spectacles, pour faire accueillir mes propres spectacles. Et ça c'est une situation... qui devient vraiment bloquante pour moi.
Et en même temps, vous en avez monté énormément.
Vu mon âge, j'en ai assez. Ouais. J'en ai assez de toujours aller demander quelque chose.
Et c'est difficile à chaque fois.
Ben, ça devient absolument horrible même. Ouais. Ouais. Puis il y a des gens très gentils qui m'aident beaucoup. Mmh. Enfin, je pense à Lavaudan. Il y a d'autres personnes comme lui, Chambéry, Dominique Jambon. Ils sont... une grande gentillesse, mais c'est jamais drôle de toujours faire appel aux mêmes personnes, quoi. C'est pas sérieux. Donc
en même temps, vous avez monté énormément de spectacles.
Ben oui, mais il y a même une année, moi j'avais dit en manière de plus en plaisantant, j'avais dit que j'en avais marre et que quand on aura atteint le bout de la page, j'arrêterai. Ce qui ne voulait rien dire, parce qu'on pouvait écrire encore les titres des spectacles plus petits, ça augmentait. Puis après, j'avais dit j'arrêterai en 1984. Ouais. Donc, c'est un coup de folie. Maintenant, je ne dis plus rien. Mais ça me semble de plus en plus dur pour moi. En tout cas, et puis on le voit bien avec ce qui se passe, cette espèce de période, je dirais même pas époque, parce qu'une époque, c'est plus large qu'une période, mais la période qu'on vit, quand on voit les intermittents, toutes les questions que ça pose, qu'ils posent, toutes les questions qui sont posées par les intermittents, ça dépasse, bien évidemment, le problème de l'UNEDIC ou des ACEDIC. Il suffit d'aller les entendre dans leur assemblée pour le constater, tant qu'on ne sait pas où on en est. Il se peut qu'on se prépare à des lendemains qui ne soient pas drôles du tout. À entendre certains, plein de jeunes compagnons disparaître, des comédiens, des comédiennes ne vont plus pouvoir exercer leur art parce qu'ils n'auront pas les allocations chômage. Donc on va. C'était déjà un peu prévisible. On va concentrer les crédits sur les institutions qui marche, et puis voilà, quoi.
Est-ce que le spectacle en creux parle un peu de tout ça? Je vous disais que j'ai vu le spectacle le 11 septembre, et ce drapeau américain, là...
Là, moi, il y a quelqu'un qui en a bien parlé, c'est Didier Méreux dans La Croix.
Ouais.
Ou en tout cas, la fin de son article, parce qu'il dit, et je suis très fier, enfin, qu'il l'ait vu, il dit que ça commence par un drapeau américain qui bouche absolument tout le plateau et que ça se termine par ce que nous on appelle l'émeute municipale.
Oui.
Ça se termine par un discours d'un président à qui on demande « Et alors monsieur, c'était comment ?» et qui dit « L'enfer, il n'y a pas d'autre mot, l'enfer. » Et je trouve que c'est bien résumé le spectacle, quoi. Tout est dit.
Et par rapport à notre époque, enfin pour moi, c'était, j'ai ressenti une comme un manifeste politique très très fort qui dépasse.
Ça l'est, mais si vous voulez, et ça c'est important, c'est pas, ça n'a pas été du tout prémédité. Mmh. Autrement dit, on n'a pas fait ce spectacle en se disant on va faire un spectacle contre l'Amérique ou contre les Américains. Pas du tout. Après, ce qui s'avère que dans les textes de Brodigan et dans d'autres écrivains, certains écrivains américains ne sont pas tendres vis-à-vis de leur pays. C'est jamais méchant. Chez Brodigan, c'est pas méchant. Mais c'est quand même souligné, il le marque. Enfin, les Logan Brothers, la race des races, c'est dit. Il y a beaucoup de choses qui sont dites quand même dans le spectacle et qui ne sont pas agréables pour les Américains, mais c'est comme ça. Mmh, mmh. D'ailleurs, toutes les discussions qu'on a de café ou avec nos amis, on ne s'en prive pas. Le Français ne se prive pas pour dire ce qu'il pense des Américains. En riant d'ailleurs, parce que ça ne le touche pas directement. On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Irak. Donc on peut en parler un peu comme ça. En se disant, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ils n'aiment pas le roquefort, ils nous interdisent de leur envoyer du roquefort, ils n'aiment pas les truffes, ils font plus d'importation de truffes. Enfin, on peut dire, on peut se moquer des Américains, on est en droit d'ailleurs de s'en moquer, parce qu'ils font pas mal de conneries, il faut le reconnaître. Mais le spectacle n'est pas... comment je pourrais dire, il n'est pas volontairement politique, voilà.
Mais ça l'est au bout du compte.
Il l'est, mais involontairement.
Ouais. Ça l'est un peu comme les un peu tous vos spectacles, non, enfin,
y a je crois, ça. Oui. Ouais. Bah, y a une part de moi, quoi. Ouais. Ne serait-ce que le choix de l'auteur, ou les choses qui sont dites dedans. Le prochain, d'ailleurs, là je vais... Je vais essayer de dérouter, mais chaque fois que je dis que je vais essayer de rentrer dans le rang, j'y arrive pas. Je me souviens qu'une année, je m'étais dit, il faut que tu montes un classique, mon gars, ça suffit, il faut que tu montres quand même aux gens que t'es pas incapable d'en monter un. Et donc j'avais monté Titus Andronicus de Shakespeare. Ça
n'a
pas marché, parce que malheureusement, j'avais choisi la pièce de
c'est
Shakespeare.
C'est pas le classique le plus calme.
Voilà, une pièce de Shakespeare que personne ne connaissait. Ouais. Donc ça n'a pas marché. Là, je remets le truc en chantier, je veux un classique, et normalement, je vais monter La Cruche cassée de Kleist.
Mmh. Qui n'est pas tellement monté.
Mais... qui n'est pas tellement monté, mais que les gens connaissent, comme ça, plus par oui-dire que... Mais effectivement, c'est pas tellement monté. Mais c'est considéré, d'après enfin, les petits sondages que j'ai faits, on peut l'admettre comme un classique.
Et alors, pourquoi La Crèche cassée?
Mais le hasard, je rangeais mes bouquins, mais je vous jure que c'est vrai, c'est décevant.
Et c'est celui-là qui est tombé.
J'en donnais, et je me disais, mais pourquoi avoir une bibliothèque ça te sert strictement à rien, tu vas pas lire ça, ça prend de la place, etc. Et en me débarrassant de certains bouquins, je suis tombé sur La Cruche cassée.
Je me suis dit, tiens, vous avez commencé à le relire?
Je l'ai relu, et puis j'ai vu d'autres traductions, d'autres adaptations. J'ai su que Planchon l'avait monté au Théâtre des Marronniers, etc. Puis je me suis dit, on va monter ça.
Vous allez jouer?
Je vais jouer, oui. Et alors on va être dans cette affaire en coproduction avec le Théâtre de la Croix-Rousse dirigé par Philippe Faure, qui lui également doit jouer.
Dans
La Cruche cassée.
D'accord.
Donc ça va être entre directeur de compagnie, dirais-je, et deux metteurs en scène qui vont s'affronter sur le terrain, quoi. Ça risque d'être drôle. Lui va jouer le juge Adam et moi le conseiller Walter. C'est le conseiller Walter qui gagne. Je ne serai pas tendre.
Bon, ben merci.